bien camarades et amis, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Le vent de front qui s'est levé sur la Bretagne se fait désormais sentir dans tout le pays. Il est parti de la colère conjuguée des ouvriers licenciés et des petits paysans, des petits routiers révoltés par l'écotaxe. Mais comme on le voit, cette fronde se nourrit aujourd'hui de bien d'autres colères. La Bretagne n'est pas un cas spécifique. Depuis que la crise a éclaté en 2008, des dizaines de villes ont vu leur unique usine fermer ses portes. À chaque fois, c'est toute la population laborieuse qui est frappée, les artisans, les restaurateurs, les coiffeurs ou les buralistes, qui voient leur clientèle s'appauvrir ou partir. Et c'est ce qui se passera à Amiens, en Picardie, si Goodyear ferme ses portes en mettant sur le carreau ses 1173 ouvriers. C'est ce qui se passera à La Roche-sur-Yon, en Vendée et à Orléans, si les usines Fagor-Brandt ferment. C'est ce qui se passera à Roubaix, dans le Nord, si la Redoute licencie 700 employés, tout comme autour des sites de Maury Ducrot, le transporteur, avec ses 5000 emplois menacés auxquels il faut rajouter 2000 emplois de sous-traitants. C'est ce qui se passe en fait à l'échelle de tout le pays, avec des plans de licenciement qui vident les usines année après année, qui ruinent des régions entières. Ce sont des dizaines de milliers de travailleurs qui se retrouvent mois après mois plongés dans le chômage et la misère. Ils sont acculés à la survie quand les quelques milliers de grands bourgeois et de spéculateurs, qui ne sont que des parasites, prospèrent, aidés par tous les gouvernements qui se succèdent. Et ce n'est pas la soi-disant baisse de 20 000 chômeurs qui va changer en quoi que ce soit la situation du monde du travail. Ce sont les ouvriers qui payent le plus lourd tribut en étant plongés dans le chômage et la misère, mais c'est l'ensemble du monde du travail qui est frappé. Une usine qui ferme ses portes, c'est la ruine aussi pour les artisans, pour les bouchers, les garagistes et autres petits commerçants. Aujourd'hui, une partie d'entre eux expriment leur colère de voir la TVA augmenter. Ils craignent que cette TVA fasse diminuer encore leur chiffre d'affaires. Eh bien, cette colère est légitime. Comme la colère sur l'écotaxe est légitime. Cette taxe n'est pas conçue pour taxer les profits des gros du transport, de l'agroalimentaire et de la distribution. Ça, le gouvernement prétendument socialiste en est incapable. Cette taxe a été conçue par Sarkozy, puis par Hollande. Sans faire la différence entre les petits et les gros, tout le monde doit payer, y compris le petit agriculteur, le pêcheur ou le petit camionneur qui a déjà du mal à se verser un SMIC. Alors oui, il y a un matraquage fiscal, mais il ne concerne pas les plus riches qui, comme toujours, pleurent la bouche pleine, alors qu'ils sont favorisés par le gouvernement Hollande autant qu'ils l'étaient avec Sarkozy. Il concerne les classes laborieuses, les salariés, y compris les plus pauvres et plus généralement tous ceux dans les classes populaires qui vivent de leur travail. Le véritable matraquage fiscal, c'est la hausse de la TVA que s'apprête à faire le gouvernement au 1er janvier 2014. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit, celui qui frappe le plus les travailleurs et les plus pauvres, car tout le monde paye le même taux, que l'on soit millionnaire, smicard ou chômeur. Le véritable matraquage fiscal, ce sont aussi les mesures décidées en douce, qui font que d'un seul coup, près d'un million de familles composées de travailleurs et de retraités, avec de faibles salaires ou de faibles pensions, qui jusque-là ne payaient pas d'impôts sur le revenu, sont devenues maintenant imposables. Avec les conséquences qui en découlent, comme la perte de certaines allocations et l'obligation de payer la taxe d'habitation et la redevance télé. Le gouvernement nous dit que toutes ces augmentations d'impôts sont nécessaires. Mais nécessaires pourquoi ? Plus les impôts augmentent, plus les services publics utiles aux classes populaires, comme les hôpitaux, l'enseignement, les transports, la sécurité sociale, se dégradent d'année en année, alors que des centaines de millions sont consacrés à financer les industriels de l'armement, ainsi que les guerres de brigandage de l'armée française au Mali ou ailleurs. La hausse de la TVA prévue le 1er janvier contribuera à financer le crédit d'impôt compétitivité de 20 milliards par an, cadeau du gouvernement socialiste au grand patronat. L'écotaxe, provisoirement suspendue, est révélatrice de la politique du gouvernement. L'État, dont le gouvernement affirme que les caisses sont vides, était prêt pourtant à payer à Ecomouv', l'entreprise qui a installé les portiques sur les routes et qui était chargée de la collecte de l'écotaxe, le gouvernement était prêt à payer, tenez-vous bien, un loyer annuel de 250 millions d'euros par an pendant 13 ans. Au total, 3 milliards 200 millions d'euros pour un investissement de la part des Comouv de 650 millions d'euros. Voilà ce qui s'appelle faire une bonne affaire sur le dos des contribuables. Et ce n'est pas tout. Le contrat avait tout prévu, y compris ce qui est en train de se passer en ce moment, à savoir que l'État français renonce à appliquer l'écotaxe. Et Comouv va être indemnisé à hauteur de 1 milliard d'euros. Et ce gouvernement, qui n'a pas un sou pour les hôpitaux, pas un sou pour les écoles, les transports, qui dérembourse les médicaments par centaines, qui rogne sur le moindre centime consacré à aider les plus pauvres, eh bien il sait trouver les centaines de millions qu'il faut quand il s'agit d'arroser une entreprise capitaliste. Ce sont les travailleurs, les classes populaires qui payent par leurs impôts et les restrictions budgétaires, les cadeaux au grand patronat, ainsi que les intérêts faramineux que les banques prélèvent sur un État endetté jusqu'au cou, pour avoir pourtant emprunté pour aider ces mêmes banquiers. Le Premier ministre vient d'annoncer une remise à plat de la fiscalité, une grande réforme fiscale. Si elle devait réellement avoir lieu, les travailleurs n'ont rien à attendre de bon de cette réforme. Ni l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ni celui sur la grande fortune ne seront augmentés, ça c'est certain. La seule annonce réelle d'Héro a été que la hausse de la TVA au 1er janvier serait bien maintenue. Son augmentation, applaudie par le MEDEF, se traduira par une nouvelle dégradation du pouvoir d'achat des travailleurs. Sur cette taxe, comme sur les autres, le gouvernement se comporte en loyal serviteur du patronat. La remise à plat de la fiscalité annoncée par Héro est au mieux un écran de fumée et plus certainement encore la menace de nouvelles ponctions pour les travailleurs. Eh bien, espérons que le monde du travail réserve à la hausse de la TVA une riposte comparable à celle suscitée par l'écotaxe et que le gouvernement soit contraint de reculer, d'y renoncer. C'est tout ce que ce gouvernement mérite. Le gouvernement va continuer à faire payer les classes populaires, tandis que les grands bourgeois, les grandes entreprises vont continuer à être épargnées. La seule politique fiscale juste, du point de vue des exploités, serait la suppression des impôts indirects, la suppression de toutes ces taxes, de la TVA, de la TIPP. Ce serait que l'impôt sur le revenu ne s'applique justement qu'au revenu, c'est-à-dire ce qui est tiré de l'exploitation par le biais du capital, mais pas sur le salaire et pas sur les pensions de retraite. Quand on est un travailleur, le salaire comme la retraite n'est pas un revenu. C'est la rétribution d'un travail réel, rétribution déjà amputée par la plus-value prélevée pour le profit capitaliste. C'est bien par le travail de l'ensemble de la classe ouvrière que la société fonctionne. Eh bien, un travailleur ne devrait pas avoir à payer d'impôt sur son travail. Ça serait juste. En plus de l'impôt qui pèse sur leur pouvoir d'achat, les travailleurs sont attaqués sur le terrain qui touche directement leurs conditions de vie, l'emploi. Le patronat est à l'attaque. Et c'est en se mobilisant comme l'ont fait en Bretagne, les ouvriers de Galles, de Doubs, de Marine Harvest, que les travailleurs pourront défendre leur emploi et se protéger du chômage et de la misère. Mais à condition, bien sûr, qu'ils se battent pour leurs revendications. À condition qu'ils mettent en avant leurs intérêts de travailleurs et d'exploités. À condition qu'ils se battent pour l'interdiction des licenciements, parce qu'il n'y a que cela qui pourra garantir aux travailleurs les emplois et les salaires. Et à condition, bien entendu, de dénoncer toute prétention patronale à se poser en porte-parole des travailleurs. En Bretagne, le patronat essaye de tirer les marrons du feu, il essaye de récupérer la mobilisation à son profit. Le MEDEF local, représentant les familles bourgeoises de la région, dont font partie les Doubs, mais aussi les Pinot, les Bolloré et les Leclerc, est en bonne place dans les négociations qui sont censées conduire à un plan d'avenir pour la Bretagne. Mais le BNF n'y est pas pour défendre l'emploi, il y est pour défendre ses profits. Ses patrons n'ont aucune légitimité à parler au nom des travailleurs licenciés. Qu'ils en aient déjà la prétention est révoltant. Qui décide de tous ces licenciements? Qui impose des cadences insupportables, des salaires de misère et des conditions de travail qui démolissent la santé des travailleurs, si ce n'est ces gens-là? Quant aux intérêts des petits agriculteurs et des pêcheurs, ils ne sont pas plus défendus par ce grand patronat. Dans le plan d'aide à la Bretagne concocté par le gouvernement, il y aura sans doute des dizaines de millions destinés à l'agroalimentaire. Mais les plus petits de la filière n'en verront pas la couleur parce que dans ce système capitaliste, ce sont toujours les plus gros qui font la loi. Alors ces millions grossiront les profits des groupes de l'agroalimentaire qui continueront, comme si de rien n'était, à licencier, à comprimer les salaires d'un côté et à ruiner les petits artisans, les commerçants de l'autre. Autant les ouvriers et les travailleurs indépendants, qui ne vivent que de leur travail, ont des intérêts communs et peuvent se retrouver dans bien des combats. Autant il est vital que les travailleurs aient pleinement conscience qu'ils ont des intérêts diamétralement opposés avec le grand patronat. Tout le discours que l'on nous sert autour de la Bretagne et de sa particularité est nuisible à double titre. D'abord, parce que ça laisse entendre qu'exploiteurs et exploités ont des intérêts communs. Et ensuite, parce que cela coupe les travailleurs qui vivent en Bretagne des autres travailleurs du pays, alors qu'ils ont à mener ensemble le combat contre les licenciements. Les drapeaux bretons ne sont pas là que pour le folklore. Ils participent à la tromperie. Le régionalisme, comme le nationalisme, sont des pièges qui servent les intérêts des patrons et ne font que diviser les travailleurs. Face aux patrons qui licencient, soutenus par le gouvernement, la seule solution, l'unique solution pour les travailleurs, n'est pas chacun dans sa région, mais bien tous ensemble, unis dans tout le pays. Les travailleurs ont mille fois raison de manifester leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement et celle du patronat qui licencie à tour de bras. Comment ne pas être en colère quand on sait qu'au plus fort de la crise, les PDG des grands groupes ont réussi à préserver leurs profits et à garantir les dividendes de leurs actionnaires en licenciant et en baissant les salaires? Comment ne pas être en colère quand on voit les banques, pourtant responsables de la crise, s'en sortir parce qu'elles ont été mises sous perfusion d'argent public? Comment ne pas être en colère quand on sait qu'en pleine crise, les 500 familles les plus riches de France ont trouvé le moyen d'augmenter leur patrimoine de 25%. Alors quand les travailleurs se battront, il sera impératif qu'ils ne se mettent pas à la remorque d'autres couches sociales, petits ou grands patrons. Sinon, ils serviront une fois de plus de masse de manœuvre et leurs intérêts seront enterrés. Dans les luttes futures, les travailleurs ne devront pas être à l'arrière, mais à l'avant-garde, en première ligne. C'est eux qui devront être à la direction des luttes en levant leur propre drapeau, le drapeau des exploités. Parce que si ce n'est pas les travailleurs qui dirigent les futures luttes en s'attaquant aux grands patrons, ce sont eux, les grands patrons, qui seront à la manœuvre. C'est eux qui tireront les marrons du feu, eux qui obtiendront de nouvelles subventions, de nouvelles facilités pour faire encore plus de profits, sans arrêter, bien évidemment, les licenciements, comme cela risque de se passer en Bretagne. Et c'est en montrant leur détermination, leur ferme volonté de se battre, leur capacité à s'organiser, leur unité, en faisant la démonstration de leur puissance, que les travailleurs pourront entraîner les autres couches sociales de la population, artisans, commerçants, agriculteurs et même petits patrons, qui ont tous leur propre raison d'être en colère contre le gouvernement, contre les banques ou contre les gros industriels. Et la classe ouvrière ne pourra le faire que si elle a son propre programme, sa propre politique indépendante et surtout une profonde conscience de ses intérêts, que si elle ne perd jamais de vue qu'elle doit s'attaquer à son ennemi social, le patronat licencieur et le gouvernement qui le soutient. Depuis plusieurs années, nous disons qu'il faut populariser autour de nous, dans la classe ouvrière, un programme de lutte pour les travailleurs. On en mesure aujourd'hui toute l'urgence. Pour que les travailleurs mobilisés ne se laissent pas entraîner dans de faux combats, pour qu'ils ne se mettent pas à la remorque des intérêts patronaux, il faut relayer dès aujourd'hui les revendications des travailleurs, il faut en discuter autour de nous et les défendre. La priorité, l'urgence pour les travailleurs, c'est la fin des licenciements. L'interdiction des licenciements et le partage du travail sans diminution de salaire de façon à résorber le chômage. Pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps complet, la vie devient de plus en plus difficile et pour les chômeurs, c'est pire encore. Parmi ceux qui ont été licenciés ces dernières années, combien ont épuisé leur droit au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre. Combien sont menacés de perdre leur toit après avoir perdu leur emploi. Les Restos du Cœur qui ouvrent leurs portes prévoient qu'ils vont devoir aider cette année plus d'un million de personnes, un record. Empêcher qu'on tombe au chômage est une question de survie. Au nom de la protection de la vie humaine, il est bien interdit aux propriétaires d'expulser leurs locataires pendant l'hiver. Eh bien, il faut se battre pour qu'au nom de la protection de la vie, il soit interdit aux patrons de licencier. Pour résorber le chômage, il faut qu'il y ait des embauches partout. Partout où le personnel manque. Partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables. Partout où les salariés ne peuvent plus poser leur congé. Il faut des embauches en CDI, de vrais emplois avec des salaires pleins et entiers. Il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux où tous les deux ans, un travailleur en remplace un autre mis au chômage. Oui, il faut arrêter de concentrer tout le travail sur des travailleurs de moins en moins nombreux, mais au contraire, imposer de le répartir avec un salaire plein et entier, parce qu'un emploi et son salaire qui va avec, c'est la seule richesse des travailleurs. Et le revendiquer est un droit légitime. Pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1700 euros net. Il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, et ce, pour tous les salaires, les pensions de retraite et les minima sociaux. Si aujourd'hui, des salariés demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse, c'est parce qu'ils touchent justement les salaires de misère. Le travail du dimanche, comme les heures supplémentaires ou le travail de nuit, n'ont rien à voir avec du volontariat. C'est pour les travailleurs sous-payés une situation imposée et forcée. La question du travail du dimanche, comme la question des heures supplémentaires, masque le seul vrai problème, celui des salaires. Et les travailleurs ne pourront pas le résoudre avec des arrangements individuels. La seule solution, là encore, l'unique solution, est le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires et leur indexation automatique sur l'inflation. Ce ne sont en réalité que des revendications élémentaires. À travers ces objectifs, les travailleurs ne font en fait que revendiquer le droit à la vie. Mais c'est encore trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours, il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires, embaucher est impossible, les caisses sont vides, le pays a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs, l'interdiction des licenciements et l'indexation des salaires à l'inflation, sont liés à un troisième, incontournable, vital, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. On ne peut pas, et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie. Les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale versent pourtant 200, 300 fois le SMIC à leur PDG, ou alors des retraites chapeau d'un montant écœurant, comme vous le savez, pour Philippe Varin, le PDG du groupe Peugeot Citroën, avec 21 millions d'euros pour avoir passé seulement 5 ans à la tête du groupe. Mais tout comme les 5 autres hauts dirigeants de PSA qui, eux, se partagent seulement 50 millions à eux 5. Les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires, millions qui seront dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Le grand patronat a érigé le mensonge et le secret en art de gouverner. Prenez par exemple la famille Doux, qui sévit en Bretagne et qui a licencié des milliers de travailleurs sur ces 2 années, en invoquant bien sûr 2 très grosses difficultés financières. Elle n'a rien perdu de sa fortune, elle continue de faire de belles affaires aux 4 coins du monde. Autre exemple, La Redoute, que tout le monde présente comme une entreprise très mal en point. Mais son propriétaire, c'est Pinault. Et Pinault, c'est pas n'importe qui. C'est une des plus grandes fortunes du pays, et lui, ça va très bien pour lui. Rien qu'en 2012, il a vu sa fortune augmenter de 4 milliards. C'est plus qu'il n'en faut pour garantir pendant 10 ans les 700 emplois qu'il menace à Roubaix. Souvenez-vous aussi comment la direction de Peugeot Citroën avait juré, la main sur le cœur, il y a 2 ans, qu'il n'était pas question de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. alors même que la CGT de l'usine avait rendu public un document interne, confidentiel, qui prouvait le contraire. Et vous connaissez la suite, la fermeture d'Aulnay courant 2014. Pour que les travailleurs puissent se défendre efficacement, il faut briser le secret des affaires. Faire circuler les informations entre travailleurs et les rendre publiques est le seul moyen de vérifier, de savoir ce qu'il en est réellement des comptes, de l'argent qui entre et qui sort, et des problèmes réels des entreprises. Et il serait tout simplement normal que les travailleurs concernés par des licenciements ou confrontés à des attaques aient accès à toute la comptabilité, puissent connaître l'état réel des entreprises, ses bénéfices réels, ses dettes, ses participations à d'autres entreprises, l'utilisation des dividendes. Et il faudrait que les travailleurs fassent la même chose pour les comptes de l'État et des collectivités publiques. Pour Ecomove, par exemple, comment a été négocié ce contrat? Comment a été calculé le loyer annuel de 250 millions d'euros? Dans quelles conditions? Y a-t-il eu des intermédiaires? Cela permettrait à toute la société de savoir enfin la vérité sur ce qui se passe derrière les vitres opaques des conseils d'administration. Et l'on s'apercevrait alors à tous les coups que les vastes plans de licenciement, que les plans d'attaque contre les travailleurs répondent uniquement à des critères de rentabilité pour assurer un matelas de profit aux actionnaires et qu'il n'y a aucune raison de les accepter. De la même façon, l'indexation des salaires sur les prix ne serait possible qu'en contrôlant réellement l'évolution des prix, en faisant en sorte que le contrôle soit fait par la population elle-même. Indexer les salaires sur le taux de l'inflation calculé par l'INSEE serait encore se faire voler, tant les indices officiels sont mensongers et truqués, tout le monde le sait. Contrôler en permanence l'évolution réelle des prix dans les commerces, c'est à la portée aussi bien de n'importe quelle mère ou père de famille qui fait ses courses que des employés d'hypermarché à qui on demande chaque jour de changer les étiquettes de prix des produits. Comment explique-t-on, alors qu'un marin-pêcheur de Quimper vend son kilo de lotte à 4 euros et que le consommateur le retrouve à 20 euros à Auchan? Pourquoi une telle marge? Qui des intermédiaires et des hypermarchés se servent au passage et de combien? Beaucoup de petits commerçants se plaignent aussi des charges trop importantes. Mais combien les banques prélèvent-elles sur leur chiffre d'affaires? Combien payent-ils pour louer leurs locaux aux spéculateurs immobiliers et aux assurances? Tout cela pourrait être su, dévoilé, publié, parce que les consommateurs, les travailleurs, les paysans, les caissières, les comptables le savent parfaitement, mais à condition de briser le secret commercial. De la même manière qu'il faut des milliers de travailleurs pour fabriquer un produit, chaque travailleur individuel, en réalisant une petite parcelle, eh bien, chaque travailleur connaît aussi, à son niveau, une petite parcelle de la vérité sur l'état réel de l'entreprise où il travaille, sur ses comptes, ses petits secrets et ses grosses magouilles. Prises individuellement, ces informations ne servent peut-être pas à grand-chose, tout comme une seule vis posée par un seul travailleur d'une chaîne de production ne sert pas à grand-chose. Mais mise bout à bout, chacune de ces parcelles de vérité permettrait de savoir réellement toute la vérité sur les entreprises capitalistes. C'est dans une période de montée des luttes et collectivement que les travailleurs pourraient imposer ce contrôle, car ils reprendraient confiance en eux et pourraient prendre l'habitude de tout dire, de tout mettre sur la place publique. Et on pourrait alors savoir tout sur la comptabilité, sur les prix, sur les magouilles des bourgeois petits et grands. Et l'on verrait. On verrait aussi combien rapporte un salarié. On mesurerait alors l'escroquerie qui consiste à parler de coût du travail. Le coût du travail. La réalité, c'est que le moindre centime que la bourgeoisie gagne lui vient de l'exploitation du travail. Les millions d'euros que dépensent les riches pour s'assurer leur train de vie de parasites est extrait de la peine et de la sueur des travailleurs. Le coût du travail, ça n'existe pas. Le travail ne coûte pas au patron, il leur rapporte. Ça, c'est la vérité. Voilà ce que dévoilerait le contrôle des travailleurs. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. La levée de ce secret doit donc faire partie du programme des travailleurs. Pour défendre leurs conditions d'existence, les travailleurs doivent se battre pour leurs intérêts, pour leur programme que je viens de décrire. L'interdiction des licenciements, l'indexation des salaires sur les prix, le contrôle sur les comptes de la bourgeoisie. C'est en combattant les capitalistes de la distribution, de l'industrie et de la finance que les travailleurs entraîneront derrière eux les autres catégories sociales qui vivent de leur travail sans exploiter personne. Mais ce sont bien les ouvriers, les exploités, qui doivent prendre la tête du combat, car ils sont les seuls à n'avoir aucun intérêt à cette société d'exploitation, les seuls à pouvoir contester la dictature de la bourgeoisie et de ce système capitaliste qui ruine toutes les classes populaires et qui pèse sur toute la société. Encore une fois, les travailleurs ne pourront le faire que s'ils ont leur propre programme, leur propre politique indépendante, leur propre parti et une profonde conscience de leurs intérêts. Les responsables de la bourgeoisie et leurs larbins nous serinent leur solution à eux. Tantôt, c'est l'innovation, ou alors le remboursement de la dette, le protectionnisme ou la sortie de l'euro. Les travailleurs doivent opposer à toutes ces politiques qui répondent aux problèmes de la bourgeoisie leur propre politique, leurs programmes qui répondent à leurs problèmes. Revenir à ce programme de lutte, le populariser contre tous les mensonges de la bourgeoisie, affirmer que la classe ouvrière doit le brandir en toute indépendance, doit être, pour nous, une boussole. C'est aussi la meilleure manière pour ne pas tomber dans un autre piège, le piège de la propagande sur la compétitivité. Le patronat et la droite, son allié naturel, ont toujours cherché à faire croire que l'avenir de l'économie, de ses travailleurs, de ses chômeurs, de ses jeunes et de ses vieux, dépendait de la compétitivité des entreprises. Ils ont toujours défendu l'idée que l'augmentation de cette compétitivité devait être le seul et unique objectif de toutes les politiques publiques. Eh bien, depuis qu'ils sont au pouvoir, les socialistes s'y sont convertis et même certains syndicalistes s'y sont mis. Mais pour les travailleurs, la compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'exploitation, le travail à la tâche, les salaires de misère. Aujourd'hui, en 2013, celui qui revendique un emploi en CDI, celui qui revendique la retraite pleine et entière à 60 ans, avec 37 ans et demi d'annuité de cotisation, celui qui revendique un salaire digne de ce nom est au pire un dangereux extrémiste, au mieux un utopique. Ce qui existait dans ce pays il y a 20 ans est devenu aujourd'hui une folie utopique. Voilà le résultat de la course à la compétitivité. La compétitivité et le capitalisme sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les travailleurs dans la guerre économique qu'elle mène contre ses concurrents. Mais les travailleurs n'ont aucune raison de marcher. Comme ils n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie basée sur leur propre exploitation et basée sur leur appauvrissement. Alors oui, reprendre à son compte ces termes de compétitivité, de coût du travail, en les légitimant, c'est déjà se placer dans le camp du patronat. Et se laisser convaincre de cette idée lorsqu'on est un travailleur est pire encore. Parce que cette idée de compétitivité porte en elle celle de concurrence entre les travailleurs. Et le patronat voudrait nous convaincre qu'il faut être plus compétitif que les travailleurs des autres pays, plus compétitif des travailleurs des autres régions, des entreprises concurrentes, voire d'un autre atelier de la même usine. Dans certaines entreprises, les patrons sont même à distribuer des primes de compétitivité individuelles, évidemment, pour pousser chaque travailleur à essayer de trimer plus dur, plus vite, dans de plus mauvaises conditions que son propre voisin de travail. C'est une politique criminelle, non seulement parce qu'elle fait reculer le droit des travailleurs, mais aussi parce qu'elle sème la division, la concurrence entre les travailleurs. Et ce n'est pas pour rien que la presse a largement rapporté, il y a déjà maintenant plusieurs semaines, le coup de poing organisé en Bretagne par la direction des abattoirs de Gade pour faire évacuer un piquet de grève en mettant en avant que des ouvriers aient participé à cette opération. Sans doute, des travailleurs se sont malheureusement laissés entraîner. Mais c'est là le piège patronal. Nous pousser à nous battre les uns contre les autres pour éviter que, unis, les travailleurs fassent front contre le patronat. Voilà le fruit pourri que tous ceux qui défendent la compétitivité comme solution pour les travailleurs voudraient nous faire avaler. Eh bien, pour nous, il n'est pas question de l'accepter. Faut-il accepter que nos vies dépendent des commandes que son patron saura arracher à d'autres travailleurs ? Faut-il accepter que notre salaire dépende des bonnes affaires que son patron fera ? Non, bien sûr que non. Les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de la propagande sur la compétitivité. Ils doivent, au contraire, revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur la compétitivité ou sur les profits, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. Si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien qu'ils laissent la place. Si le système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi et à vivre, eh bien il faut le renverser. La seule perspective qui vaille le coup pour la classe ouvrière est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Les travailleurs ne pourront se défendre efficacement que s'ils ont conscience qu'ils doivent combattre et le grand patronat et le gouvernement. Il n'y a rien à attendre de bon de ce gouvernement. Beaucoup à droite, mais aussi beaucoup à gauche, critiquent la politique du gouvernement en accusant Hollande d'indécision et de manque d'autorité. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais même les psychologues s'en sont mêlés, expliquant les nombreux changements d'attitude de Hollande par son enfance passée à faire le grand écart entre une mère de gauche et un père de droite. Il est ridicule d'allonger Hollande sur le divan du psychanalyste pour comprendre sa politique. Elle est celle de tout président de la République. Elle vise à préserver le système capitaliste et la classe qui en profite, la bourgeoisie. Si Hollande donne l'impression de changer de discours en permanence et de ne pas savoir où il va, c'est qu'à la différence de la droite, il ne veut pas l'assumer ouvertement. Les socialistes au pouvoir sont dans le double discours constant, parce qu'ils sont coincés entre les attentes de leur électorat et les attentes de la bourgeoisie, dont ils sont les gestionnaires fidèles, mais ils savent très bien où ils vont. Ils ont un cap. Ce cap, c'est la politique que le patronat leur demande. Par exemple, pour ArcelorMittal, Hollande a défendu Mittal. Il n'a pas reculé malgré la pression en faveur de la nationalisation du site de Florange. Face à la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, il a défendu la famille Peugeot. Il n'a pas reculé face aux ouvriers quand nous nous sommes battus pendant 4 mois. Hollande a reculé sur les impôts pour les plus riches, pas ceux des plus modestes. Ça, c'est un cap politique. C'est une politique de classe. De ce point de vue, il n'y a pas de différence entre Sarkozy et Hollande. Cela a amené Hollande à faire une politique anti-ouvrière. Cela l'a amené à faire le cadeau du crédit d'impôt compétitivité, 20 milliards par an. Cela l'a amené à mettre en place la loi sur la flexibilité, issue de l'ANI, à attaquer les retraites, à augmenter les impôts jusqu'à la TVA qui pèsera encore sur les plus modestes. Et il n'y a pas à s'en étonner. Oui, le gouvernement mène une politique anti-ouvrière, il est payé pour cela. Alors si le gouvernement mène la même politique patronale que la droite, eh bien il faut le combattre sans avoir la moindre hésitation comme un gouvernement de droite. Nous en sommes convaincus, les travailleurs réagiront tôt ou tard aux attaques. Mais pour que leur combat ait une chance d'être mené jusqu'au bout, il faut faire revivre cette conscience de classe et les idées communistes révolutionnaires que le mouvement ouvrier a portées pendant bien des années. Depuis que la classe ouvrière existe, les travailleurs se sont toujours battus pour leurs conditions d'existence. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir défendu aussi des idées bien plus générales, celles de la critique radicale de la société capitaliste, de son caractère injuste, incontrôlable, anachronique. La perspective tracée par le mouvement ouvrier révolutionnaire ne se bornait pas à la défense des exploités, mais à leur émancipation et à l'émancipation de toute la société du joug de l'argent. C'était la perspective de détruire la société capitaliste et de la remplacer par une société sans exploitation, sans la dictature des profits. Le mouvement ouvrier a levé non seulement le drapeau de la défense des exploités, mais aussi le drapeau de la société communiste. La transmission de ces idées et de ces valeurs propres à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier s'est affaiblie au fur et à mesure des trahisons des partis ouvriers, du parti socialiste d'abord, puis plus tard du parti communiste, qui se sont intégrés dans la société bourgeoise et qui se sont transformés en gestionnaires loyaux des affaires de la bourgeoisie. À cela s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des centrales syndicales. Je parle ici, bien évidemment, des directions nationales des syndicats. Dans le meilleur des cas, elles font mine de s'opposer, organisent des baroudes d'honneur, mais sans réellement armer moralement les travailleurs et sans leur donner des perspectives. Et au pire, elles justifient et appuient les attaques du gouvernement et du patronat en contresignant des mesures anti-ouvrières. Voilà comment ceux qui prétendent être du côté des travailleurs ont distillé au sein de la classe ouvrière les valeurs et les idées du grand patronat. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs, rebaptisés classe moyenne, reprennent les idées de la bourgeoisie que leur répètent les politiciens et que leur distillent la télé et la presse, que l'économie doit être compétitive et qu'en fin de compte, l'intérêt des exploités, c'est que les exploiteurs s'enrichissent. Au point aussi que les idées nationalistes et protectionnistes étrangères au mouvement ouvrier sont présentées comme des évidences. Aujourd'hui, il est beaucoup question de la remontée des idées racistes dans la société. Comme à chaque crise, ce sont les pires préjugés qui remontent à la surface, mais elles s'expriment d'autant plus que la caste politique chevauche ces préjugés pour des raisons électoralistes. L'extrême droite en fait son fonds de commerce, la droite lui court après, mais qu'en valse. Droit dans ses bottes, déclare que les Roms ne peuvent pas s'intégrer. Il fouille lui aussi dans les poubelles du Front National. Parce que faire croire que 17 000 Roms est un problème insoluble pour un pays de 65 millions d'habitants, ça c'est abject. Et puisque l'immigration est revenue au centre du débat, je voudrais en dire ici deux mots. Je voudrais d'abord dire que la vie de tout travailleur est celle de perpétuels nomades. Ici en France, il s'agit le plus souvent de faire quelques dizaines de kilomètres pour changer d'usine ou de ville pour trouver du boulot. Mais les travailleurs des pays pauvres sont, eux, forcés de faire des milliers de kilomètres, de changer de continent, de langue et d'abandonner leurs attaches. Aujourd'hui, il paraît que de plus en plus de jeunes Français diplômés tentent une carrière à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à Singapour, au Canada. Personne ne leur conteste ce droit. Alors il n'y a aucune raison d'en priver les autres travailleurs immigrés sans diplôme. Quelle que soit sa nationalité, son origine ou ses papiers, tout travailleur doit être libre de circuler, de s'installer où il le souhaite. Les travailleurs n'ont pas de patrie, disait Marx. Tant il est vrai que le sort que le capitalisme réserve aux prolétaires est d'aller là où il y a du travail. Tant il est vrai que rien ne leur sera jamais donné, jamais assuré, pas même le droit de se faire exploiter dans le pays où ils sont nés. C'est pourquoi le mouvement ouvrier conscient s'est toujours battu contre ceux qui voulaient opposer les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité ou de leur origine. La solidarité de classe et l'internationalisme doivent constituer les valeurs de la classe ouvrière. Alors oui, nous revendiquons toujours fièrement de la vieille devise communiste que Marx a écrite il y a 150 ans, « Travailleurs de tous les pays, unissons-nous ». Le fait d'être les seuls à défendre les idées et les perspectives propres à la classe ouvrière rend notre activité et notre politique d'autant plus précieuses et indispensables. Oui, il faut reconstruire dans ce pays un parti qui oppose à tous les partis dévoués au système capitaliste une politique propre aux travailleurs, une politique qui ait pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui travaillent, une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vit de l'exploitation. Il faut continuer à faire entendre cette voix, comme nous le faisons dans nos activités quotidiennes. Et pour que les travailleurs ne soient pas réduits à devoir choisir aux élections municipales et européennes entre des candidats qui se placent tous dans le cadre de l'organisation capitaliste et sur le terrain de la bourgeoisie. Et pour qu'ils puissent faire entendre le camp des travailleurs contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, nous essaierons d'être le plus présents possible dans ces deux élections. Dans ces deux élections, nous ferons entendre la voix de ce courant du mouvement ouvrier qui considère que les travailleurs n'ont pas à choisir entre tous ceux qui ont pour perspective de perpétuer l'esclavage salarial, mais qu'il faut que dans ces élections, comme dans toute la vie politique, les exploités défendent leurs intérêts pour les médias comme pour l'avenir de la société. Les municipales constituent la première possibilité électorale de rejeter la politique de Hollande et du Parti socialiste. Ces élections sont locales, mais la signification qu'on donnera au vote aura un caractère national. Et c'est dans l'ordre des choses, car les problèmes qui se posent à la population générale et aux classes exploitées en particulier ne sont pas des problèmes locaux ou municipaux. Mis à part les politiciens de la majorité, et encore, on peut avoir beaucoup de surprises, tous les partis politiques appelleront à un vote sanction contre Hollande et le Parti socialiste. Alors il faut que les travailleurs puissent rejeter le gouvernement d'un point de vue de classe, du point de vue de leurs intérêts. Il suffit de discuter autour de nous pour savoir que dans les milieux populaires, certains envisagent de voter pour le Front National pour exprimer leur rejet de la politique gouvernementale. Mais croire qu'il est possible de rejeter la politique anti-ouvrière du gouvernement et le cirque politicien en votant pour le Front National, c'est se tirer une balle dans le pied quand on est un travailleur. Que les candidats du Front National soient des nouveaux venus au bal des prétendants ne les rend pas moins arrivistes. Ici, que Le Pen n'ait jamais participé à aucun gouvernement n'en fait pas pour autant une candidate anti-système. Elle use de ficelles démagogiques grossières, prend la défense de la veuve et de l'orphelin, condition qu'il soit français, mais elle ne vise qu'à aller à la mangeoire. Le Front National, s'il parvenait au pouvoir, gouvernerait au profit de la bourgeoisie, comme les Sarkozy et Hollande, mais il le ferait dans sa variante la plus autoritaire. Le simple fait que le Front National jette en pâture les travailleurs immigrés, une partie de la classe ouvrière, fait de ce parti un parti anti-ouvrier, un ennemi mortel pour les travailleurs. Ceux parmi les exploités qui envisagent de voter pour le Front National en se disant que c'est juste pour un coup, ou alors juste pour donner un coup de pied dans la fourmilière, se trompent lourdement. Le vote Front National pèsera peut-être, mais il pèsera dans le sens contraire aux intérêts des travailleurs. Le vote Front National sera interprété comme une critique du gouvernement, mais sur sa droite, car les votes venant des pauvres se mélangeront avec ceux des pires réactionnaires, des petits patrons anti-ouvriers, des nostalgiques des colonies, de l'OAS, des racistes. Voter Front National sera interprété comme l'exigence d'une politique encore plus dure contre les chômeurs, une politique encore plus dure contre les syndicats, contre les travailleurs qui veulent s'organiser et se défendre. Pour un travailleur, voter Front National, c'est tendre le fouet pour se faire battre. Alors oui, il faut rejeter le gouvernement, mais il faut rejeter sa politique anti-ouvrière en mettant en avant les intérêts des travailleurs. En plus d'exprimer une colère contre le gouvernement, il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation. Car derrière le gouvernement, il y a le grand patronat. Et il ne suffit pas d'exprimer sa colère contre les marionnettes que sont les ministres et les députés. Il faut viser aussi ceux qui tirent les ficelles, la bourgeoisie, les financiers, les actionnaires. Il faut viser les licencieurs, les exploiteurs, les parasites qui s'engraissent sur le travail de tous. Pour faire reculer ce patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle. Il faudra des luttes massives, profondes de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion nous est donnée de nous exprimer dans les élections, et ce sera le cas dans les prochaines municipales et européennes, il faut que les travailleurs l'utilisent pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre ses serviteurs politiques, toute obédience confondue, du Parti socialiste au Front National, en passant par la droite et le centre. Tout l'intérêt politique de la participation des communistes révolutionnaires à ces élections est de faire entendre le camp des travailleurs, de défendre et de faire entendre une politique, une perspective en rupture, non pas avec tel ou tel regroupement politique au service de la bourgeoisie, mais avec la bourgeoisie elle-même, avec le système capitaliste. C'est peu, mais c'est aussi beaucoup, car c'est à travers des combats politiques, y compris à l'occasion d'élections, que peut émerger et se forger un parti politique qui représente les intérêts des travailleurs, un véritable parti communiste. Il s'agit de reprendre le combat mené par des générations de militants, collaboration de centaines, de milliers de femmes et d'hommes qui ont apporté leur contribution. Chacun peut aider à sa façon et nous avons besoin de tous. Vous savez, il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire, et il y a bien des choses que nous ne pouvons pas empêcher. Mais il y en a au moins une qui dépend de nous. C'est de dire ce que nous pensons. C'est affirmer notre politique communiste révolutionnaire. C'est de faire vivre fièrement nos idées parmi les travailleurs. C'est d'affirmer haut et fort notre conviction que le monde changera un jour, que le capitalisme et son économie démente, basée sur le profit, ne peuvent pas être le fin mot de l'histoire de l'humanité. C'est d'affirmer qu'un jour, les exploités se lèveront pour balayer la bourgeoisie, et avec elle, l'exploitation, la misère et l'oppression. Oui, nous avons une confiance inébranlable dans la capacité de la classe ouvrière à se mobiliser, à se sortir de sa torpeur, à se lever, à faire preuve dans les combats futurs de toute l'énergie, de toute l'abnégation, de tout le courage et de toute la force dont ont fait preuve dans le passé des générations d'ouvriers en lutte. Alors, camarades, ces convictions qui nous animent, eh bien, nous espérons les transmettre et les faire partager au plus grand nombre possible de travailleurs, de jeunes autour de nous. C'est notre raison d'être en tant que militants. Et nous sommes certains que de la petite braise que nous continuons d'entretenir jour après jour rejaillira à la fin la flamme révolutionnaire quand la classe ouvrière reprendra le chemin des luttes. Alors camarades, bon courage pour continuer le combat. Vive la classe ouvrière, vive le communisme.